Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective, ces moments qui ont tout changé. Ce soir, notre jour J est le 1er mai 1994. Le coureur automobile Ayrton Senna meurt tragiquement lors du Grand Prix Saint-Marin sur le circuit d'Imola en Italie. Un accident dramatique qui marquera un tournant dans la sécurité sur les circuits de Formule 1. Nous sommes le dimanche 1er mai 1994. Ce matin, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola en Italie, le coureur automobile brésilien Ayrton Senna rend hommage dans un tour de circuit embarqué pour TF1 à son rival de toujours, Alain Prost.
Et pour commencer, un bonjour à notre ami Alain. Tu me manques, Alain.
Malgré les apparences, le super champion Ayrton Senna est en proie à de grands doutes. Il faut dire que ce qui deviendra le week-end le plus sombre de l'histoire de la Formule 1 a débuté sous un ciel déjà chargé de mauvais augure. Il y a deux jours, son compatriote et ami Rubens Barrichello a échappé par miracle à la mort quand sa Jordan bleue est venue percuter de plein fouet une barrière de sécurité à 225 km/h. Et puis hier, c'est le pilote autrichien Roland Ratzenberger qui a heurté un mur au volant de sa Simtech Ford lors de la séance de qualification. Le choc à 310 km/h est fatal, le bolide en partie détruit. Sidéré, Ayrton Senna a assisté à la mort de Ratzenberger en direct depuis les écrans de contrôle dans le stand Williams-Renault. Il a alors demandé à se rendre sur l'endroit de l'accident pour le repérer davantage. Mais le règlement le lui a interdit. Dans tous les cas, Senna a promis de brandir un drapeau autrichien en son honneur s'il s'impose sur le circuit d'Imola. Dans la foulée de la mort de Ratzenberger, Senna a refusé de poursuivre les essais. Écoutez bien, ce sera sa dernière interview.
J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant.
Alors le champion a-t-il eu une prémonition ? Toute cette nuit, Ayrton Senna s'est demandé s'il allait vraiment prendre le départ. Cela fait quelque temps que le pilote est plongé en plein doute et n'a pas une confiance absolue en sa voiture. De surcroît, ces deux accidents consécutifs ébranlent ses dernières certitudes. Mais par ailleurs, le prince des circuits, 41 victoires en Grand Prix et triple champion du monde, a cartonné hier aux essais qualificatifs. Pour la 65e fois de sa carrière à 34 ans, il s'élancera en pole position, premier sur la grille de départ. À 14h précise, débute la course maudite pour 25 pilotes sous pression et déjà éprouvés par les drames. Ils font vrombir les moteurs de 800 chevaux de leur bolide qui, en 3 secondes, passera de 0 à 100 km/h. Senna prend la tête, talonné par l'Allemand Michael Schumacher. Alors qu'il entame le 6e tour, Senna s'engage dans la courbe de Tamburello à une vitesse de 306 km/h. Au moment de tourner son volant, la FW16 ne répond pas et s'encastre sur le mur. Le choc est terrible, la voiture réduite au rang d'épave, le temps s'arrête brutalement. Alain Prost, l'ancien rival d'Ayrton Senna, commentateur de la course sur TF1 avec Jean-Louis Moncey et Johnny Rive, détecte tout de suite une défaillance technique et ne cache pas son pessimisme.
On voit très bien de la caméra de Schumacher que directement la voiture change de cap et se dirige vers le mur. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il l'a pris avec un angle qui est quand même pas très bien. La preuve, c'est que la voiture s'est arrêtée relativement vite après, ce qui veut dire que le choc était terrible.
Il est 14h17 lorsque l'on extrait le corps inerte d'Ayrton Senna de ce qu'il reste de sa voiture.
L'immobilité de Senna est très très effrayante quand même.
Oui.
Ses pieds ne bougent absolument pas, il est complètement inconscient. Et le fait qu'il soit allongé à même le sol indique que les médecins partent au plus pressé et que la situation doit être très grave.
Coureurs anéantis, spectateurs sous le choc, téléspectateurs stupéfaits, tous ont le regard rivé sur l'hélicoptère des secours quand il s'envole pour l'hôpital Maggiore avec le corps du champion à son bord. Certains, dans le public, l'applaudiront. Il est 14h35. La course reprend malgré son cours dramatique. Et oui, c'est la règle de la Formule 1. À 18h37, le docteur Maria Teresa Fiandri annonce ce que le monde entier redoute. Ayrton Senna est mort. Ce sera Michael Schumacher qui remportera le Grand Prix ce jour-là. « Cette victoire devrait certainement me rendre heureux », déclara-t-il. « Mais selon moi, trop de choses sont arrivées ce week-end pour me laisser ressentir cela. » Portrait ce soir d'un champion que la Formule 1 a tué, selon les mots du coureur Jean Alési, un jeune homme que la mort a hissé au statut d'idole. Et retour sur ce jour où la Formule 1, en se drapant de noir, a dû regarder en face ses défaillances en matière de sécurité. Dans un instant, Stéphane Barbet, grand reporter au journal L'Équipe, spécialiste de l'automobile, sera notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J. Nous sommes ensemble en ce jeudi pour revenir sur un événement qui a marqué les esprits. Et si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, eh bien restez à notre écoute, car cet événement a soulevé une vague de protestations qui a marqué un avant et un après en matière de sécurité sur les circuits de course automobile. Nous sommes le 1er mai 1994. Le monde de la Formule 1 est sous le choc. Une journée noire dans un week-end maudit où les drames se sont succédés. Voici ce que l'on entendait aux informations en fin de journée sur RTL.
Je l'apprends à l'instant, Ayrton Senna est cliniquement mort, Jean-Michel Rascol.
Oui, les derniers examens et les derniers diagnostics étaient extrêmement réservés et malheureusement on vient de l'apprendre, Ayrton Senna est cliniquement mort.
Stéphane Barbet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter au journal L'Équipe, vous êtes spécialiste de l'automobile, vous êtes donc notre meilleur interlocuteur, meilleur copain pour cette soirée. Vous êtes également auteur du livre 1000 Grands Prix, 70 ans de Formule 1, coédité par L'Équipe Solar. Vous étiez sur place ce jour-là. Quel souvenir en gardez-vous ? Est-ce que l'on peut dire que c'est un événement qui a traumatisé véritablement le monde de la Formule 1.
Oui, moi, le souvenir que j'en conserve, c'est évidemment le choc, la brutalité de l'impact contre le mur. Il faut savoir que Imola, c'était pas un circuit à l'époque aux normes que l'on connaît aujourd'hui. La salle de presse, elle était toute petite. On était tous regroupés autour d'une télévision puisqu'on regardait ça en direct. Et après, moi, il me reste une image forte, c'est celle d'une jeune femme qui était coincée avec nous derrière ce stand de l'écurie Williams, et elle ne cessait de réciter son chapelet. Et c'est l'image qui m'en reste. On était tous là à attendre la nouvelle qu'on annonce, la mort clinique. Tout le monde savait, compte tenu des bruits qui arrivaient de son état de santé sur le circuit et de ses très très graves blessures à la tête. Mais il est effectivement mort cliniquement d'un arrêt cardiaque en fin d'après-midi, 18h30 à l'hôpital.
Est-ce que l'on peut véritablement parler d'un traumatisme ?
Oui, alors évidemment, la veille, il y avait eu l'accident mortel d'un autre pilote, un jeune pilote autrichien, Roland Ratzenberger. Mais personnellement, Ratzenberger, je n'avais jamais rencontré. Sa mort a forcément marqué les esprits tous, mais elle a été probablement plus perçu profondément par les journalistes autrichiens qui étaient là. Senna, c'était une autre dimension et on était nombreux, parmi les journalistes, parmi même certains mécanos et d'autres, à n'avoir jamais connu la mort en Formule 1. La mort précédente d'un pilote, elle remontait à Helio De Angelis en 1986. Ça faisait 8 ans. Il y avait eu pas mal d'accidents, pas mal de gros chocs, mais à chaque fois, miraculeusement, ils s'en sortaient, parfois même vraiment sans blessure du tout.
À l'instar de Rubens Barrichello, 2 jours avant la mort d'Ayrton Senna.
Exactement.
Alors, on va revenir sur le déroulé de ce week-end cauchemardesque. Mais avant, racontez-nous qui était Ayrton Senna. Parce que vous nous dites déjà, c'était différent. Il était différent. Il avait 34 ans.
Il est mort, il avait 34 ans. C'était pas un enfant des favelas. C'était pas un jeune môme qui avait tapé dans un ballon.
Où est-ce qu'il a grandi, à Rio ?
Il a grandi à Sao Paulo.
Qui étaient ses parents ?
Alors, ses parents étaient de riches propriétaires terriens, avec également une activité industrielle. Donc, c'était vraiment la bourgeoisie aisée du Brésil, de Sao Paulo, pas de Rio. C'était très différent, d'où une certaine rivalité avec Nelson Piquet, d'ailleurs. Donc, c'est là qu'il a grandi. Il a très vite touché au karting.
C'est marrant de passer, pardonnez-moi. Alors, effectivement, c'est à la fois logique et en même temps assez étrange. J'ai vu en préparant cette émission des images d'Ayrton Senna sur un kart. Et de le voir après sur le circuit d'Imola. D'abord, est-ce que sa famille l'a accompagné dans ce projet ou est-ce que ça a été mal perçu qu'il devienne...
Elle ne l'a pas empêché. Elle ne l'a pas non plus vraiment poussé à cela. Il est allé s'exiler en Angleterre parce que c'est là que tout se passait à l'époque. Et vous parliez du kart et d'Imola. Il faut savoir que même quand il rentrait chez lui ou chaque fois qu'il en avait l'occasion ou quand il pleuvait, Senna sortait son kart pour tourner sous la pluie et s'entraîner encore et avoir cette dextérité qu'il était l'un des rares à avoir sur le mouillé.
Sa personnalité. Parce que c'est pareil, aujourd'hui c'est une idole, Ayrton Senna. On y reviendra plus tard. Est-ce que c'est sa mort qui l'a érigé en idole ou est-ce qu'il avait déjà quelque chose de particulier ? Vous avez parlé, vous, d'un jeune homme très poli, très discret... Et oui. En même temps, un mental de champion.
Un mental qui s'était forgé en arrivant en Angleterre de la part d'un pilote brésilien. Beaucoup de Brésiliens et de Sud-Américains sont venus faire leur classe en sport automobile. Mais il faut imaginer ce que ça peut être l'Angleterre pour un Brésilien en fin mois de décembre. Et donc, il a dû se forcer un peu le mental à ce moment-là. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui était effectivement très doux quand il parlait. Chaque interview était quelque chose de réfléchi, de sensé. Il en donnait assez peu, parce qu'il dédiait vraiment tout son temps sur les circuits et en dehors à la compétition et à la préparation de la course. Moi, je retiens de Senna cette voix qui faisait qu'il était un petit peu différent. Ses interviews étaient longues, ses réponses étaient longues. Il était capable de passer un quart d'heure pour disséquer virage par virage un tour de qualification qui dure 1 minute 30.
Donc, servi par une intelligence, c'est ce que j'entends. Oui, servi par une éducation, c'est ce que vous nous dites aussi. C'était pas un chien fou. Quand on voit sa destinée, effectivement, c'est important de dire que c'était quelqu'un de parfaitement mesuré, de maître de ses émotions, je dirais, et déjà quelqu'un qui sortait du lot sur les paddocks.
Oui, par exemple, il évoquait beaucoup sa foi. On a pu le faire passer pour quelqu'un de mystique. Je pense que c'était pas ça du tout. C'était quelqu'un qui était profondément croyant. Alain Prost est croyant, Schumacher l'était, Hamilton l'est. Mais lui a sans doute été le premier à l'exprimer clairement, à s'y référer de façon naturelle. Encore une fois, par rapport à Nelson Piquet, qui était un autre Brésilien déjà champion du monde, qui faisait une blague tous les 5 mots, c'était quelqu'un de posé, comme son pilotage en fait.
On va revenir sur la personnalité d'Ayrton Senna dans un instant, parce que je vous ai parlé d'un mental de champion. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la carrière de Senna, c'est sa relation avec Alain Prost. Ce sera dans un instant dans Jour J, et on reviendra évidemment sur les circonstances dramatiques de cet accident. C'était le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola. A tout de suite sur RTL dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui vous emmène ce soir dans un monde de vitesse, d'odeur, de pneus cramés sur l'asphalte, de sportifs héroïques qui tutoient la mort sur les virages des circuits de Formule 1. Le 1er mai 1994, le monde entier est sous le choc. En direct devant les caméras de télévision, le super champion brésilien Ayrton Senna se fracasse avec sa FW16 à plus de 300 km/h sur un mur en béton sur le circuit d'Imola en Italie. Stéphane Barbé, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'équipe spécialiste donc du milieu automobile. Alain Prost, il était aux commentaires ce jour-là pour TF1. Il était aux premières loges de ce funeste accident. Racontez-nous ce qui les liait et ce qui les divisait tous les deux avec Ayrton Senna.
Même leur rivalité les alliait en fait.
Parce que oui, c'est ça. Ils étaient liés par une féroce rivalité.
Oui, absolument. Alain Prost, il avait tenu ce rôle d'Ayrton Senna en étant le pilote plus jeune qui a un peu poussé à la retraite Niki Lauda. Mm-hmm. Senna est arrivé, pour le coup pas comme un chien fou, mais quand même avec son talent, avec son audace de la jeunesse, face à un pilote qui était déjà bien installé, qui avait son aura. Le début de la collaboration s'est pas mal passé du tout. Il y a eu un tournant, une saison où le fait qu'ils étaient tous les deux avec une voiture tellement dominatrice qui a gagné 15 des 16 Grands Prix cette année-là, a fait qu'inévitablement, ils luttaient l'un contre l'autre. Et à voiture égale...
C'était le talent, c'était là, après, qui parlait. Quoi.
C'était aussi le mental. Senna était sûrement peut-être plus doué qu'Alain Prost pour mettre un bon coup de pression en dehors de la piste, par certains commentaires. Alain raconte que... En tant que pilote, Senna n'était pas le même. Il ne pouvait pas avoir d'amis. Il ne pouvait pas être ami avec son équipier. Ça, ce n'était pas possible parce que forcément, la victoire passait par l'un des deux.
Ils se sont fait des sales petits coups.
Il y a eu des petits coups en vache, oui.
Et même des coups, je dirais, presque dangereux, non? Enfin, je veux dire, quand on parle de Formule 1, on n'est pas en train de faire de la calèche.
C'est vrai qu'on a l'exemple
dans un parc parisien, quoi.
L'exemple d'un pilote qui tasse l'autre contre le mur en pleine ligne droite à 300 à l'heure. Oui, ça,
c'était lequel?
C'était Senna.
C'était Senna. Donc oui. Senna a poussé Prost. Mm. Donc là, il y a non seulement effectivement une grande rivalité, l'expression d'un pousse-toi de là que je prenne ta
oui,
place quelque part.
Exactement.
C'est une allégorie finalement de leur situation. Et un Prost qui sent à un moment donné qu'il est secoué par ce plus jeune. Est-ce qu'il y a eu de l'animosité entre eux en dehors des circuits? Parce que quand on les regarde, quand on regarde des interviews, je trouve après coup, on a presque... Donc ça faisait partie quoi? Un peu du folklore de la Formule 1 que de
non,
ce...
Non, pas du folklore, de cette rivalité qui était tout entière, qui n'était pas derrière le volant seulement, qui était tout entière dans le paddock. Il y a eu des coups en vache, il y a eu aussi des mots un peu bien sentis de Senna qui avait... plus que Prost, la capacité à lancer une pique en conférence de presse pour le déstabiliser ou ce genre de choses. Et Senna est effectivement très fort dans ce domaine-là.
Donc c'est une relation d'animosité qui n'a échappé à personne à l'époque.
Ah non, ça c'est voilà. Sûr. En fait, c'est terrible de dire ça, mais on était ou pour Senna ou pour Alain Prost. Alors que moi j'estime qu'on admirait Alain Prost, on ne pouvait pas faire autrement qu'admirer Alain Prost, même si on était pour Senna.
Je voudrais qu'on écoute encore une fois le clin d'œil, et c'était le dernier, hein, qu'Ayrton Senna a fait à son rival. Nous sommes quelques heures avant l'accident tragique d'Ayrton Senna, lors d'un tour embarqué sur le circuit pour TF1.
Et pour commencer, un bonjour à notre ami Alain. Tu me manques Alain.
Alors, c'est d'autant plus émouvant qu'ils ne se reparleront jamais, que la réaction de Prost après coup a été de dire « bah écoutez, je suis un petit peu surpris, décontenancé par ce clin d'œil presque chaleureux, même carrément chaleureux d'Ayrton Senna à mon endroit, et j'espère que ça laisse augurer un avenir plus heureux ». Bon, effectivement, quelques heures après, Ayrton Senna mourait quasiment sous les yeux d'Alain Prost. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, Senna? Il a tendu une main à un rival qui était passé de l'autre côté au commentaire sportif.
C'est tout à fait ça. Je pense qu'il a peut-être même aussi mis sur la page publique quelque chose qui, malgré tout, existait déjà un petit peu entre eux depuis que Senna continuait à courir et que Alain Prost avait pris sa retraite à la fin de l'année précédente. Et Alain a ce regret sur la mort de Senna, qui effectivement, comme vous le dites, on n'a pas pu aller plus loin. Alain, il travaille sur un documentaire qui commence un peu à traîner en longueur pour sortir sur sa vie. Et ça, le thème, c'est deux frères. Le frère, son frère Daniel, qui est décédé d'une leucémie, je crois. Et Senna. Il associe Senna à une sorte de fratrie, parce que du jour où Senna et Prost n'étaient plus concurrents, Senna a complètement changé. Ouais. Complètement changé d'attitude.
Et au point de le gratifier de ce clin d'œil, voilà. Quelques heures avant de mourir. On va se retrouver dans un instant, si vous voulez bien, Stéphane Barbet. On va revenir sur cet événement que j'ai raconté en début d'émission, cette course maudite, ce week-end noir de la Formule 1 en 1994 qui aura changé le cours des choses. Dans un instant, vous entendrez Schumacher, Prost et encore Jacques Lafitte, effectivement, s'exprimer sur la sécurité sur les circuits à l'époque. À tout de suite dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous dans Jour J. Dans quelques minutes, nous passerons le relais au foot. Mais pour l'heure, on revient sur un événement tragique dans le monde du sport aussi. La mort tragique donc d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger la veille sur le même circuit. Ces deux événements qui ont soulevé une vague de protestations chez les coureurs. Ce 1er mai 1994, c'est Michael Schumacher qui remporte donc le Grand Prix Saint-Marin. On imagine ce qui s'est passé dans la tête de Schumacher qui était juste derrière Senna au moment de l'accident quand il s'est agi de poursuivre la course, parce que c'est ça aussi, Stéphane Barbet, vous êtes notre invité, c'est la dure loi aussi de la course automobile. C'est-à-dire, il y a un accident, on arrête les tours, le temps de libérer finalement la route, et on reprend. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Schumacher quand il a vu Senna se prendre le mur juste en face?
Sur le moment, je ne sais pas s'il a
réalisé,
parfaitement compris la gravité du choc. On sait qu'à cet endroit-là, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça va très très vite. Ils sont dans leur course, il faut repartir... Senna était vivant quand il a quitté le circuit en hélicoptère. Mais s'il avait été déclaré mort sur le circuit, probablement pour le coup, la course, pour pas seulement des raisons financières ou d'assurance ou tout ce genre de choses,
aurait été interrompue par partie.
Mais c'est l'histoire du sport automobile, en fait. Jamais dans l'histoire du sport auto, quand dans les années 70, des pilotes se tuaient en course, il y a des exemples de pilotes qui meurent brûlés vifs dans leur voiture et les voitures passent à côté et la course continue.
En tout cas, Michael Schumacher, ce jour-là, ne pourra pas savourer sa victoire. Il l'aura dit. Bien au contraire, il a même décidé de s'engager. La mort d'Ayrton Senna sur le circuit d'Imola en Italie, la Williams Renault du triple champion du monde brésilien a percuté un mur de protection en béton à plus de 300 km/h. L'Allemand Schumacher, vainqueur de la course, prend la tête d'une croisade pour améliorer la sécurité des circuits.
Alors on vient de l'entendre, hein, Michael Schumacher donc lance une croisade. Alain Prost prend la parole dans la foulée de Schumacher.
Alain Prost accuse l'argent, tout est fait pour le business, rien pour le sport, on ne parle plus de sécurité, s'insurge l'ancien champion français.
Et enfin Jacques Lafitte, ancien pilote qui s'exprime également sur cette question.
Depuis un an ou deux, on a représenté ce drame qui nous arrive là d'un seul coup en pleine gueule. Il y a eu 4 pilotes gravement blessés, 2 morts aujourd'hui en l'espace de à peine un mois. Nous rappelle à l'ordre et nous dit attention, il y a quelque chose de grave en ce moment, il faut que la fédération, les pilotes de Formule 1 et les constructeurs prennent conscience qu'ils sont arrivés à un point de non-retour.
On pressentait ce drame, a dit Jacques Lafitte. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il fallait attendre effectivement une nouvelle mort, vous le disiez, la dernière datée de 1986. Il faut attendre des morts pour à un moment donné prendre conscience des manquements de la sécurité sur les circuits de Formule 1?
Je ne sais pas s'il faut attendre des morts. Je pense que le problème, c'est que l'accident de Ratzenberger et de Senna, en fait, a montré un des points faibles qui restait sur les Formule 1.
Lequel?
C'était la protection de la tête. Une Williams, comme celle de Senna, à l'époque, les épaules dépassaient du cockpit. Et il y avait eu tellement de gros crashs avant, avec, comme on le disait tout à l'heure, des pilotes qui sortaient de la voiture, qui marchaient, et pour certains même qui couraient à leur voiture, si c'était juste avant le départ, dans un tour de chauffe, pour prendre le vrai départ avec leur voiture de réserve, que finalement, les choses semblaient... On semblait avoir fait ce qu'il fallait pour la sécurité. Parce que les voitures étaient de plus en plus solides, les coques carbone protégeaient les pilotes, on appelait ça des cellules de survie, jouaient leur rôle. Il a manqué cette protection de la tête, qui donc a tué Senna, puisque c'est un élément de suspension.
On le voit sur les images, hein. On voit vraiment la voiture qui se prend le mur, et on voit effectivement que quand elle est reprojetée au centre de la piste, la tête se balade. Enfin, c'est terrible,
c'est ça,
d'ailleurs.
Parce qu'elle
quel choc.
Absolument pas tenue. Si on regarde aujourd'hui un Grand Prix de Formule 1, suite à l'accident de Senna, et suite à l'accident 20 ans plus tard, il n'y a plus d'accident mortel après Senna, jusqu'à la mort de Jules Bianchi, qui a eu un très grave accident au Grand Prix du Japon 2014 et qui est mort 6 mois plus tard. Là aussi, on pensait après Senna avoir fait tout ce qu'il fallait parce qu'on a forcé les protections de cockpit pour éviter que la tête ne bouge de trop. Pour encore éviter des mouvements de tête, on a installé un système qui s'appelle un système HANS. En résumé, c'est quelque chose qui est des épaulettes et qui sont rattachées au casque et qui évite encore des mouvements plus importants de la tête que le choc. À un moment donné, c'est le cerveau qui finit par l'absorber. Jules Bianchi est décédé d'un choc, lui aussi à la tête, contre une grue qui venait évacuer une voiture parce que là, il n'y avait pas de protection comme on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle le halo, qui est une sorte d'arceau de sécurité au-dessus du cockpit, qui a probablement encore sauvé la vie d'Hamilton il y a deux grands prix. On peut pas dire, je pense qu'il n'y a pas eu une réflexion, mais chaque accident, et on n'a pas forcément eu un mort à chaque fois, a permis d'améliorer cette sécurité qu'on a aujourd'hui.
Je voudrais que l'on revienne sur la mort de Senna, qui l'a hissé au rang d'idole, surtout au Brésil, hein, son pays natal. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Voici l'atmosphère qui régnait là-bas au surlendemain du tragique accident.
Ruban noir aux antennes des voitures, drapeau en berne, regard triste et une étrange sensation d'union dans le malheur. Le Brésil a vécu sa première journée de deuil national entre les larmes et la colère. Les larmes d'un peuple devant les photos d'un champion encore trop souriant pour être déjà disparu. Il pleure l'image d'un Brésil triomphant qui aidait à supporter les misères quotidiennes.
Ayrton Senna, c'est encore une idole aujourd'hui au Brésil?
Oui, grâce à une fondation qu'il a fondée, parce qu'en fait c'est sa sœur aînée qui l'a fondée après sa mort, mais ils en avaient parlé plusieurs mois avant. Une fondation qui est là pour aider les enfants défavorisés des favelas, en fait pour les occuper et leur éviter de faire des conneries.
Ouais.
Finalement, disent-ils.
Voilà, à la hauteur de l'engagement qu'aurait été celui de Senna s'il était resté en vie.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose que de toute façon, il avait déjà entamé. Il rendait à son pays. Senna, c'était un pays, un drapeau, un peuple.
C'était une nation.
Et puis, je pense que la brutalité de sa mort a amené cette ferveur dans le deuil et dans ses obsèques. Il y aura probablement des obsèques incroyables pour Pelé. Mais Pelé, c'est un monsieur de 80 ans, donc c'est qu'il est malade, qu'il a déjà fait plusieurs séjours à l'hôpital. Senna, c'était le meilleur, c'était une mort en direct. Tout le monde y assistait, la caméra était sur sa voiture parce qu'il était en tête au moment de l'accident. Il aimait profondément son pays. Il a voulu rendre à ce pays ce que ce pays et Dieu lui ont donné, en fait.
Merci beaucoup Stéphane Barbet d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle votre livre 1000 grands prix 70 ans de Formule 1, coédité par l'équipe des éditions Solar. Merci à vous.